Bonsoir à toutes et à tous, c'est Du Grain à Moudre d'été, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Propagande terroriste. C'est ce qui est reproché aux 17 journalistes du quotidien turc Cumhuriyet, dont le procès s'ouvre aujourd'hui à Istanbul. Ils sont accusés de soutenir à la fois les Kurdes séparatistes de l'AKP et les gulenistes du FETÖ, soupçonnés d'avoir planifié le coup d'État raté du 15 juillet 2016. Pour l'éditorialiste du journal, Aydin Engin, cette accusation est un oxymore. FETÖ et AKP sont deux organisations qui se haïssent. On ne peut pas faire la propagande pour les deux à la fois. Si vous tenez absolument à m'accuser, choisissez au moins une des deux, peut-on lire dans un court extrait de son interrogatoire publié par Libération aujourd'hui. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de la situation kafkaïenne des journalistes turcs, ce qui n'empêche pas le président Erdogan de prendre publiquement la défense de la chaîne d'information Al Jazeera et de se rendre aujourd'hui au Qatar, à Doha, où est justement organisée en ce moment une conférence internationale sur la liberté d'expression. Selon le rapport 2017 de Reporters sans frontières, la liberté de la presse n'a jamais été aussi menacée, et ce, même dans les démocraties, comme l'ont montré les élections présidentielles aux États-Unis et en France. Alors qui a peur de la liberté de la presse? C'est la question du grain à moudre d'été, à écouter en direct sur France Culture et quand vous le souhaitez sur franceculture.fr. Et pour répondre à cette question, trois invités ce soir. Pierre Aski, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous êtes le tout nouveau président de Reporters sans frontières et on se souvient que vous aviez cofondé Rue 89 qui proposait déjà à l'époque un autre modèle peut-être de presse, on en parlera ensemble. En face de vous à la Côte-Manie, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes également journaliste, grand reporter pour Libération où vous couvrez notamment la Syrie, mais depuis quelques temps vous couvrez aussi toute la région, vous vous intéressez à la Turquie à ce titre, et vous aviez publié cette année aux éditions des Équateurs, Seul dans Raqqa. Enfin, Arnaud Mercier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 2 Panthéon Assas. Vous êtes le directeur de la version française de The Conversation. The Conversation, c'est un site qui propose des articles d'actualité, mais écrits par des universitaires. Je pense que c'est
exactement
comme ça qu'on
peut dire. Académiques.
Des académiques. Voilà, des académiques, c'est plus large. Ça ne limite pas à l'université.
Exactement.
Vous avez raison. Et vous avez publié très récemment, c'était en juin, aux éditions du CNRS, la communication politique, entre journalisme et communication. Justement, aujourd'hui, on va voir qu'il y a des questions qui se posent. Mais j'aimerais commencer, puisque c'est l'actualité du jour, la grosse actualité du jour, c'était la une notamment de Libération, qui a ouvert ses colonnes à la Côte-Manie aux journalistes de Cumhuriyet, par ce procès donc en Turquie et cette accusation de propagande terroriste qui est accolé aux journalistes de Cumhuriyet, une accusation qu'on a vu fleurir. C'est un peu symptomatique en ce moment, on a l'impression qu'en ce moment l'accusation de terroriste c'est bien pratique pour faire taire les journalistes à la Côte-Manie.
Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Maintenant, pouvoir autoritaire ou pas d'ailleurs, accuse ses opposants ou ses détracteurs de terrorisme.
Ou de faire le jeu des terroristes.
Ou non, directement, Erdogan traite directement tous ses opposants de terroristes, quels qu'ils soient, de quelque bord. Bon, avant lui, d'autres dictateurs, on se souvient Bachar el-Assad l'a fait du premier jour, tous ses opposants étaient des terroristes. En Égypte, pareil aussi, hein, le pouvoir du maréchal Sisi fait pareil. Bon, ça devient vraiment très pratique. Les pays du Golfe accusent le Qatar de terrorisme à travers Al Jazeera. Enfin, c'est qui veut noyer son chien l'accuse de terrorisme maintenant.
Pierre Aski, sur cette situation, c'est symptomatique d'une dérive autoritaire aussi. Enfin, une dérive, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est devenu une rhétorique autoritaire courante.
Oui, et en particulier, ce qui est extravagant, parce que personne n'y croit, c'est qu'on les accuse, effectivement, comme vous l'avez dit dans l'introduction, de crimes contradictoires, parce qu'on ne peut pas soutenir à la fois Fethullah Gülen et le PKK kurde d'extrême gauche. Il y a un moment, il faut choisir. Et en plus, s'agissant de ces journalistes de Cumhuriyet, c'est un journal qui est quasiment centenaire, qui est dans une tradition plutôt kémaliste, laïque, qui a été le seul journal en Turquie à publier le premier numéro de Charlie Hebdo après la reparution en 2015. Après
ça a été un peu le début de la fin pour eux. Hein,
oui, et donc c'est compatible ni avec le PKK, ni avec Gulen. Certaines des accusations ne sont absolument pas crédibles. Le rédacteur en chef des pages littéraires du journal, qui a 73 ans, qui est un homme connu et reconnu dans l'ensemble du monde littéraire et qui est d'ailleurs parrainé ici par Bernard Pivot dans le cadre d'une opération de la SCAM, est accusé de terrorisme et on vient le cueillir chez lui à 6h du matin. Donc on voit bien que cette accusation, elle est destinée à une seule chose, c'est effectivement de charger la barque pour museler le journal le plus indépendant de Turquie.
Puisque vous parlez de cette opération de la SCAM de parrainage de journalistes de Cumhuriyet, vous êtes vous-même le parrain de Ahmet Altan, qui est accusé d'envoyer des messages subliminaux.
Oui,
avant le coup d'État raté du 15,
voilà,
du 15 juillet dernier.
Il est censé avoir fait passer un message subliminal à la télévision deux jours avant la tentative de coup d'État l'an dernier. Et je ne sais pas comment on prouve devant un tribunal l'existence d'un message subliminal. Puisque le propre du message subliminal, c'est que il est invisible ou inaudible. Donc voilà, sont des choses, comme dit un écrivain turc dans le numéro de Libération de ce matin, même Orwell n'y aurait pas pensé.
Ah non, merci. Même Orwell n'y aurait pas pensé.
Oui, c'est vrai que ça paraît absolument délirant. On est dans une situation où, en fait, le président turc ne supporte plus la moindre opposition, quelle qu'elle soit, et la moindre contestation. Alors, c'est vrai du point de vue politique, mais c'est vrai de façon générale, parce que on vient parler ici des journalistes, mais n'oublions pas qu'il y a des universitaires qui sont enfermés, il y a des juges qui sont enfermés, il y a des militaires, des policiers. Et en fait, toute personne qui représente une parole autorisée, des gens d'ONG également, qu'ils soient turcs ou étrangers. Donc, en fait, c'est toute parole qui viendrait contester d'une façon ou d'une autre les dires et les idées de Erdogan qui sont maintenant menacées. Et j'ajoute quand même un point. Mais il y a quand même une spécificité par rapport aux journalistes, c'est qu'ils ont sans doute été les premiers sur la liste. Parce que les journalistes sont menacés en Turquie avant le coup d'État, déjà. Et il me semble que, comme toujours, le jour où on commence à s'attaquer aux journalistes, il faut s'inquiéter parce qu'ils sont les premiers soldats. Et que si on laisse faire ça, très souvent, il y a d'autres gens qui arriveront après, derrière, parce qu'on a commencé déjà par éradiquer les journalistes.
Oui, dans un appel conjoint de RSF et du journal Le Monde, la Turquie est désignée comme la plus grande prison du monde pour les journalistes. Il faut le rappeler, plus de 160 ont été enfermés depuis le coup d'État, sans compter les plus de 200 qui sont partis en exil. Il y a 150 médias qui ont fermé, Pierre Aschini.
Oui, et comme dit Arnaud Mercier, c'est vrai que c'est symptomatique de l'ensemble de ce qui se passe en Turquie. Et je voudrais faire le parallèle, que vous comprendrez, avec ce qui se passe en Pologne. C'est-à-dire qu'on s'attaque, en fait, dans ces démocraties dites illibérales.
Démocrature
aussi. La Pologne avait plus démocratie illibérale que démocrature. Mais on s'attaque, on essaye de s'attaquer au contre-pouvoir, ou en tout cas à tout ce qui empêche au parti quasiment unique de fonctionner sans contestation. En Pologne, la bataille de ces derniers jours était autour de la justice. En Turquie, elle est sur la presse, elle est sur la justice, elle est sur les institutions, elle est sur la vie des idées avec les universitaires. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de commun dans l'autoritarisme qui s'empare aujourd'hui d'un certain nombre de pays au monde ce n'est pas un phénomène spécifique à la Turquie.
Mais à la Konani, ne soyons pas corporatistes, ne parlons pas que des journalistes. On a vu le 5 juillet que la directrice turque d'Amnesty International, Idil Eser, a été arrêtée. C'est vrai que quand on s'en prend aux journalistes, Arnaud Mercier le disait, c'est la première étape, ou en tout cas c'est souvent concomitant avec l'attaque, ce qu'on pourrait appeler les corps intermédiaires.
Les ONG, tout ce qui est défenseur des droits de l'homme, sont aussi ciblés en priorité par chacun des pouvoirs autoritaires, on le voit un peu partout.
En Russie, en Chine, on voit la même chose. Ouais.
En Russie, en Chine, Bon, je connais mieux la région. Je vois en Égypte, par exemple, la chasse aux ONG, des défenseurs des droits de l'homme, défenseurs que ce soit des droits des femmes, des droits des mineurs, tout le monde est touché et toujours avec des prétextes ou terrorisme ou
agent de l'étranger, ça.
Espionnage, voilà, c'est ça. Agent de l'étranger, recevant de espions, etc. Donc c'est vrai que ce sont les premiers à devoir être attaqués empêcher la dictature de tourner en rond, quoi.
Et parmi les méthodes qu'on retrouve dans tous ces pays, il y a l'arme économique contre la presse. Joe Mouriette n'a quasiment plus de publicité parce que le pouvoir fait pression sur les annonceurs pour qu'ils ne soutiennent pas économiquement ce journal, oui, indépendant, qui appartient à une fondation et non pas à un groupe privé. Mais on retrouve la même chose en Pologne. Gazeta, qui est le grand journal issu de Solidarność, de cette époque héroïque et qui est devenu un grand groupe de presse en Pologne, est aujourd'hui menacé parce que la publicité a été coupée par les pressions politiques. Donc on voit bien qu'il y a des méthodes communes à l'autoritarisme ou à l'illibéralisme.
Arnaud Mercier.
Oui, effectivement, c'est très important de souligner que un des moyens d'asphyxier, indépendamment de l'autoritarisme policier et judiciaire d'intimidation, c'est évidemment le pouvoir économique, hein, parce que on a soit, alors vous avez comment ça a été le cas en Russie, Poutine qui place des amis à lui à la direction d'un certain nombre de groupes de médias, et voire même en débarquant, y compris d'ailleurs par exemple pour le Facebook russe, il a débarqué Manu Militari, son créateur, son fondateur, pour y placer un apparatchik à lui. Donc on a vraiment cette idée, soit on remplace, soit effectivement on exerce des pressions de tous les instants contre les annonceurs en leur signalant bien que, puisqu'il reste toujours une presse d'État, hein, dans ce genre de pays, c'est pas la presse qu'on cherche à abdiquer, c'est la presse indépendante, évidemment. Et puis, je voudrais rajouter un point par rapport à la Turquie spécifiquement. Dans une bonne partie des médias qui ont été fermés sont des médias kurdes. C'est-à-dire qu'il y a un ciblage aussi sur une communauté spécifique qui n'est pas une minorité, hein, qui représente pratiquement 30%. Et donc, on a beaucoup, beaucoup de gens, de médias, alors radio, télé, locales, etc., qui ont été fermés simplement parce qu'ils étaient kurdes, indépendamment de ce qu'ils pouvaient écrire. Hein, c'est-à-dire, c'est l'idée même d'être kurde qui devient insupportable.
La Kodmanie.
Oui, j'ajouterais, enfin, les Kurdes ont été bien sûr ciblés, mais aussi il y avait beaucoup, beaucoup de médias, tout ce qui est proche du mouvement Gulen. Là, il y a
bien
des
sûr,
radios,
oui.
Des
Fethullah Gulen, il faut rappeler, c'est qui était proche
alors,
de l'AKP.
C'est un prédicateur islamiste qui a une confrérie, qui dirige une confrérie qui longtemps a été l'allié d'Erdogan au départ pour construire un petit peu une société musulmane éduquée, etc. Et puis, bon, par rivalité, enfin, après...
Voilà, il est accusé d'avoir fermenté le coup d'État raté du 15 juillet 2016.
Qui lui-même vit en exil aux États-Unis.
Oui, et donc ça fait beaucoup. Et évidemment, une dernière façon de faire pression, c'est qu'il n'y a pas que les journalistes turcs, évidemment, qui sont visés en Turquie. On a vu récemment, par exemple, l'emprisonnement d'un photographe français, Mathias Depardon, qui restait plus d'un mois en prison, alors qu'il faisait un reportage dans la région kurde de la Turquie pour National Géographique. Et il y a une façon comme ça de s'adresser aussi à la presse étrangère et de dire et de faciliter, de dire ne venez pas chez nous.
Absolument, c'est de l'intimidation.
Et de s'adresser au reste du monde tout simplement, pas seulement à la presse, parce que là, il y a une crispation en ce moment entre l'Allemagne et la Turquie autour de la détention d'un militant allemand des droits de l'homme qui était en train de faire une formation de militants turcs. Et c'est d'ailleurs au cours de cette session a été arrêtée la directrice de la section turque d'Amnesty International. Et donc, il y a cette idée de ce que disait Alaa tout à l'heure sur une partie des problèmes viennent de l'extérieur. C'est nous sommes une nation pure, c'est la pollution qui vient de l'extérieur. Et c'est évidemment le reflet de la situation de la Turquie aujourd'hui, qui rejette progressivement les passerelles qui existaient avec l'Europe l'Europe qui elle-même lui avait fermé les portes, il faut bien le dire, et qui a une mentalité d'assiégé, parce qu'il faut bien le dire aussi, toute la politique étrangère d'Erdogan est dans l'échec en ce moment, ne serait-ce que dans son positionnement en Syrie. Il est intervenu pour bloquer les Kurdes, or les Américains en ce moment s'appuient sur une force dominante kurde pour reprendre Raqqa. Donc il y a un nombre de problèmes qui font que on est dans la fuite en avant.
À la Khomeini.
Oui, non, je voulais mentionner à propos des journalistes étrangers en Turquie, qui ont évidemment de plus en plus de mal à travailler hors des clous, on va dire. Dans le même temps, quand d'une part, cette censure et d'autre part, une volonté aussi de travailler l'information officielle, c'est-à-dire la communication. J'étais la semaine dernière à Ankara pour les célébrations de l'anniversaire du coup d'État. Le gouvernement turc avait invité quand même 300 journalistes d'une quarantaine de pays différents pour venir voir comment le peuple turc tout entier célébrait ce moment de victoire sur la démocratie et d'unité nationale. C'est-à-dire, c'est remplacer une information par une autre, ou une information par la communication
oui,
plutôt
on pourrait dire.
Officielle.
Effet alternatif, comme
et voilà, et appeler, justement, là, ils en voulaient des journalistes étrangers pour venir au maximum couvrir leur propre version des faits.
Alors, est-ce que vous diriez, à ce titre, qu'il y a un manque de solidarité entre les journalistes d'une certaine façon? Il y avait une soirée Théma sur Arte récemment, où il y a un documentaire sur la situation du journalisme en Turquie, et l'un des interviewés, j'ai pas retrouvé, parce que je me souviens avoir vu cette émission, mais j'ai pas retrouvé de qui il s'agissait, disait, voilà, il y a aussi, en Turquie, pour la première fois, une rupture de solidarité. C'est-à-dire qu'il pouvait, il y a toujours eu un journalisme qui était lié à des intérêts, à des partis, qui étaient partisans à ce titre, mais au moins on ne relayait pas quand on disait un confrère, tel ou tel confrère est un terroriste. Est-ce qu'il y a aussi ce qui se passe en ce moment, c'est pas ça, c'est une sorte d'éclatement de la solidarité des journalistes entre Pierre Aski?
Je pense qu'il y a une polarisation énorme en Turquie. On l'a vu, ne serait-ce que dans les résultats du référendum, par exemple, où le président Erdogan a eu sa victoire à 51 et quelques pourcents. Donc, on voit bien que le pays est extrêmement clivé. Il y a quelques jours, il y avait deux démonstrations de force, celle d'Erdogan pour l'anniversaire et puis celle de cette marche qui a réuni des centaines de milliers de personnes à Istanbul. Donc, on est dans une société clivée où effectivement le journalisme n'échappe pas à ce clivage. On est d'un côté ou on est de l'autre, on est pour ou on est contre, on est avec ou contre le pouvoir. Et la menace qui pèse, dont on parlait au début, si vous êtes contre, vous êtes terroriste, n'incite pas beaucoup à la nuance et à la fraternisation.
Oui, et on peut ajouter que la force d'Erdogan est de construire une idéologie politique autour de l'idée qu'il est un islamo-nationaliste, c'est-à-dire qu'il défend à la fois les valeurs de l'islam et à la fois les valeurs de l'identité nationale turque, avec un retournement par rapport à la tradition qu'avait imposé Mustafa Kemal, du contraire d'une identité nationale qui reposait sur le contraire une certaine forme de laïcité. Et donc du coup, il a des soutiens, puisque pour certains, combattre Erdogan, c'est aller à l'encontre soit de l'islam, soit de l'identité turque et de la fierté nationale, etc. Et donc il a réussi à construire tout un récit politique autour de l'idée qu'il était le meilleur bouclier pour défendre à la fois la fierté nationale turque et en même temps réislamiser, c'est peut-être pas exactement le terme, mais en tout cas délaïciser, ça serait bien le terme.
Alors, puisqu'on parle de Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie, il faut savoir qu'il a commencé une tournée. Il était, je crois, hier en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, il est à Doha. Et justement, à Doha, au Qatar, il y a une conférence internationale portant sur les risques auxquels sont exposés la liberté d'expression et l'accès à l'information. C'est une conférence qui est organisée par le Comité National des Droits de l'Homme du Qatar, mais aussi par la Fédération Internationale des Journalistes et l'Institut International de la Presse. Donc, une conférence qui a quand même une certaine ampleur, une certaine envergure. Est-ce que Pierre Aski, c'est ce qu'on pouvait lire avant d'en arriver à cette situation, notamment autour du Qatar, est-ce que la liberté de la presse, comme le dit le dernier rapport de Reporters sans frontières en 2017, n'a jamais été aussi menacée dans le monde? Qu'est-ce qui permet de dire ça aujourd'hui?
C'est que je pense qu'on est dans un contexte dans lequel beaucoup de gens pensent pouvoir se passer du journalisme. D'abord parce que l'écosystème de l'information est extraordinairement affaibli, on le voit dans nos pays, mais pas seulement. Et aussi parce que ils estiment que il est temps de remplacer l'information par la communication. La communication, ça n'est pas de l'information, c'est contrôlé, c'est géré, c'est encadré, et c'est ça qui est en train de se passer et qui est une vraie menace. Dans le cas de cette conférence, c'est très intéressant parce que c'est peut-être un cas unique, j'en connais pas d'autres, en tout cas dans l'histoire récente, où dans une crise entre deux États, puisque il y a eu cette crise qui a éclaté au sein du Conseil de coopération du Golfe, entre d'un côté le Qatar et de l'autre côté l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats Arabes Unis.
Le Koweït fait la médiation.
Et dans la liste de revendications de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis sur le Qatar, il y avait la fermeture de la chaîne Al Jazeera. Alors la chaîne Al Jazeera qui est née donc à Doha, a été un instrument de la politique du Qatar, c'est évident, et de ce rayonnement et de cette diplomatie d'influence à coup de milliards de dollars qu'a eu le Qatar. Mais en même temps, c'est un média qui a ouvert des portes dans le monde arabe. C'est incontestable, qui a joué un rôle de ce point de vue-là de rompre un certain monolithisme dans les médias. Et c'est la première fois qu'on demande comme ça, dans une confrontation entre deux États, qu'on ferme carrément un média. Et ce qui explique sans doute la présence de l'Institut international de la presse ou de la Fédération internationale des journalistes à cette conférence à Doha, parce que les organisations internationales de défense de la presse se sont opposées à cette demande en disant quoi qu'on pense de la politique éditoriale d'Al Jazeera, c'est absolument scandaleux qu'un État demande la fermeture d'une chaîne de télévision de cette ampleur.
À la Côte-Manie, vous avez consacré un long papier à Al Jazeera récemment.
J'ai deux observations à faire sur ce cas. Bon, on est d'une part dans un mélange des genres dans le contexte actuel entre communication et information. Le cas Al Jazeera, quand le Qatar organise une grande conférence sur la liberté de la presse et de l'information, pour défendre Al Jazeera, c'est Al Jazeera depuis le début du conflit intergolfe s'est montré très très...
Oui, ils ont eu du mal à couvrir de façon objective la situation.
Ils n'ont jamais parlé du Qatar auparavant, ça leur était interdit, et maintenant, bon, qu'ils osent critiquer le Qatar, je crois qu'ils ne seraient plus là. Donc bon, il faut beaucoup tempérer sur les idéaux de la liberté d'information prônée par Al Jazeera, qui est quand même complètement maintenant devenu la voix du Qatar, en train de défendre, de s'attaquer à tous les autres pays qui en veulent au Qatar, etc. J'ai un petit doute, une question sur l'histoire de la fermeture d'Al Jazeera. La demande de fermeture d'Al Jazeera n'a jamais été formulée officiellement par les pays qui sont...
Bah, disons qu'on n'a pas eu accès, je crois, aux 13 demandes.
Il y a un doute sur la liste des demandes.
C'est dans des déclarations de certains responsables, c'est dans le plein d'éditoriaux, évidemment, des médias, des pays comme l'Égypte ou les Émirats, etc. Mais moi, j'ai un officiel d'un pays du Golfe important qui m'a dit, c'est jamais paru dans la liste des demandes, qui du reste n'a jamais été publiée. Donc ils peuvent jouer là-dessus en disant non, on n'a pas cette demande n'existe pas.
Quoi qu'il en soit,
c'est la plus connue.
Oui, c'est la plus connue parce que elle fait écho à des protestations antérieures. Il faut dire que Al Jazeera est peut-être la voix du Qatar, c'est aussi la voix d'un certain nombre d'opposants de la région, un média tel qu'il n'en existait pas dans la région qui a été créé, je le rappelle, au milieu des années 90. Arnaud Mercier, et qui est créé sur un modèle à l'occidental, puisque c'est principalement des journalistes de la BBC qui l'ont fondé.
Des anciens journalistes britanniques pour beaucoup, oui. Mais c'est toujours pareil, hein. Il y a une ambivalence dès le départ, c'est-à-dire, je dirais la même chose, dès la volonté politique de faire France 24 ou de faire d'autres médias dans d'autres
CNN,
pays. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée que on est à la fois, on crée ça parce qu'il y a l'idée de défendre une certaine idée de la presse, de l'information, etc. Et en même temps, ça reste quelque chose qui est une ressource dans une diplomatie d'influence. Et que on compte quand même sur ce média pour faire passer un certain nombre de messages. Et donc, on compte aussi un peu sur eux pour ne pas en faire passer d'autres. Hein.
Et donc, que cette chaîne se retrouve prise dans cette opposition diplomatique, ça ne vous étonne pas plus que ça?
Ben, c'est pas la première fois qu'il y a des pressions qui s'exercent sur Al Jazeera. Elle a été interdite d'antenne dans plusieurs pays. Pendant le printemps arabe, il y a eu des tas de contestations. L'Égypte avait fermé le signal.
Des journalistes ont été arrêtés.
Des journalistes ont été arrêtés. Il y en a même qui ont été tués dans des bombardements par l'armée américaine dans des conditions telles que on n'a jamais bien su s'ils n'étaient pas directement ciblés quand même. Enfin bref, c'est pas la première fois qu'ils sont l'objet de vives critiques et de pressions. Hein. Là, simplement, c'est vrai que, mais comme vous venez de le dire, on ne sait pas, puisque la liste n'a pas été rendue publique, on ne sait pas quelles sont ces 13 revendications avec certitude. Mais en tout état de cause, c'est vrai que c'est la première fois qu'on demande aussi explicitement une fermeture. Et parce que c'est pas du tout la même chose que de dire bon, voilà, il y a un canal satellite et nous on va interdire le satellite parce qu'on garde une certaine souveraineté sur un pays qui n'est pas le Qatar, par exemple l'Égypte ou autre, que de dire au Qatar, écoutez, maintenant vous fermez ça, c'est-à-dire vous fermez à la base, quoi, vous fermez le robinet. Là vraiment,
je sais plus qu'est-ce qu'il a dit. Imaginons la Chine demander à l'Angleterre la fermeture de la BBC.
C'est ça, voilà, c'est à peu près le niveau.
C'est les médias qatariens hein, qui ont sorti ça.
Ah bah, vous voyez, excusez-moi, je fais moi-même le porte-voix des médias qatariens.
Ce que j'essaye de dire, c'est que quelque part, il faut vraiment tempérer. Parce que toute cette histoire de fermeture, l'exigence de fermeture d'Al Jazeera a été très amplifié et on a joué le Qatar a énormément a des chevals de bataille
Oui, et ce qui ne serait pas étonnant puisque il y a quand même dans une partie de l'opinion publique arabe entre guillemets parce que je me méfie toujours de cette expression l'opinion publique arabe, mais enfin, en tout cas dans une partie de la population des pays du Maghreb et du Mashrek, certains qui pensent que avec Al Jazeera on est quand même peut-être pas parfaitement informé, mais on est toujours mieux informé que sur certaines chaînes nationales. Donc, l'idée de fermer ce robinet-là peut,
sans doute, du point de vue puissant,
du Qatar. Bah oui, ça peut être du point de vue du Qatar une manière de faire pression un peu sur les opinions publiques nationales.
D'autant que les Saoudiens ont eux-mêmes créé une chaîne arabe internationale et que voilà, on a effectivement ce pluralisme quand on zappe aujourd'hui sur les canaux du monde arabe. On a des voix qui sont certes des voix très influencées par les politiques étatiques, mais en tout cas, il n'y a plus le monolithisme national d'antan.
À la Khonmani, la BBC diffuse en arabe, France 24 diffuse en arabe. Est-ce que véritablement Al Jazeera surpasse, on va dire, dans l'opinion publique arabe, même si c'est vrai que l'expression est difficile à employer comme ça, est-ce que véritablement Al Jazeera est un cran au-dessus, en tout cas dans la confiance, puisque c'est aussi une question
qui
se pose.
C'est certain qu'Al Jazeera s'est construite au départ, maintenant elle a 20 ans, plus de 20 ans. C'est construit ça a été une pionnière, ça a ouvert quelque chose d'absolument du jamais vu. Donc elle a gardé ce capital de confiance, cette audience, etc. Cela dit, comme Pierre Aski vient de le dire, il y a maintenant, pour le téléspectateur arabe, il a le choix. Et il zappe sur les uns et les autres, y compris France 24 arabe, y compris la BBC, et ils savent ce que chacun représente. C'est-à-dire, le point de vue d'Al Jazeera qui donne l'information, généralement, les informations d'Al Jazeera sont fiables. Mais on sait qu'ils sont plus sympas avec les frères musulmans ou les tendances islamistes qu'avec d'autres, qu'ils ont tendance à dénoncer plus facilement les pouvoirs ici ou là que certains autres. Enfin, mais c'est connu, c'est presque déclaré.
On se souvient qu'Al Jazeera avait diffusé notamment, c'était au début des années 2000, les cassettes de Ben Laden avait cet accès direct au chef d'Al-Qaïda et en ce titre était accusé justement de faire le jeu des terroristes puisqu'on en revient un petit peu à cette accusation, Pierre Aski.
Oui, mais au même moment, Al Jazeera, comme le rappelait Alaa Khodmani, c'était la chaîne qui, pour la première fois, organisait des débats. Moi, je me souviens sur des débats contradictoires, comme on en a tout le temps, effectivement, sur les chaînes occidentales. Mais comme ça n'existait pas dans un univers médiatique audiovisuel qui était uniquement constitué de chaînes nationales et qui chaînes nationales qui étaient contrôlées par un ministère de l'information extrêmement tatillon. Et là, tout d'un coup, on avait cette chaîne qui, d'un côté, effectivement, ramenait les cassettes de Ben Laden et de l'autre côté, organiser des débats contradictoires quelques années, bien des années avant le printemps.
Et laisser même la parole à des citoyens, à des téléspectateurs, oui, etc. Oui, oui. Ou même donc, encore maintenant intègre des tweets dans les mêmes choses. Donc
ça a été quand même une vraie révolution qui a cassé des citadelles de contrôle étatique avant les réseaux sociaux d'ailleurs, puisque c'est bien antérieur. Mmh.
On va revenir évidemment à cette importance des réseaux sociaux, puisqu'on parle ce soir, on pose cette question, qui a peur de la liberté de la presse, avec Pierre Aski, Alaa Konmani et Arnaud Mercier.
France Culture, du grain à moudre, Raphaël Bourgois.
Trois invités donc pour répondre à cette question importante et qui se pose. On a commencé à parler de la Turquie, on a ensuite élargi, on va dire, à la région. On parlait aussi de la situation d'Al Jazeera, mais il faut peut-être parler encore plus largement de la situation, du rapport aujourd'hui qu'on peut entretenir avec la presse, avec les journalistes, jusque dans nos pays de nos démocraties occidentales, puisque il y a finalement Pierre Aski, je le disais, RSF a alerté sur une année 2016 qui n'a jamais été aussi terrible pour la liberté de la presse. Bon, on pourra sans doute en discuter, mais en tout cas, l'indice RSF a augmenté de 17,5%, je crois, c'est-à-dire la situation des journalistes est de plus en plus dangereuse, leur liberté est de plus en plus mise à mal, et il y a trois axes qui amène cela. La lutte contre le terrorisme qui durcit le cadre juridique, ça on en a un petit peu parlé. L'accroissement des pressions politiques directes sur les journalistes, on en a parlé aussi. Mais il y a ce fameux média bashing. Il est de bon ton de critiquer les journalistes aujourd'hui.
Oui, qui s'appuie, alors il faut bien le dire, sur un terreau favorable, puisque les journalistes n'ont jamais été aussi impopulaires dans les sociétés occidentales en particulier. Vous savez, en France, on a depuis pas 25 ans au moins un sondage annuel qui est fait par le journal La Croix sur le regard que portent les citoyens sur la presse. Et ça fait 25 ans que le niveau de confiance baisse d'année en année, avec des variantes entre les types de médias, entre
la
télévision
radio et le média en lequel on a le plus confiance.
C'est pour ça que nous sommes ici.
La défiance est la moindre.
Voilà. Et c'est sur cette perte de confiance des citoyens que les hommes politiques essayent aujourd'hui de se refaire une virginité par ce média bashing. Alors, la campagne électorale a été, de ce point de vue-là, caricaturale, mais je pense que ça révèle quelque chose de plus profond, dont on parlait déjà un petit peu plus tôt, mais qui est cette idée qu'on peut contourner les journalistes et qu'on peut se passer des journalistes. Et on a vu, on voit bien que ce soit Jean-Luc Mélenchon avec sa chaîne YouTube dans laquelle il parle chaque semaine directement à un public qui est quand même très important. Il a plus de 200 000 abonnés à cette chaîne.
Plus de 300 000 maintenant.
Ouais, 300 000, je n'ai pas regardé depuis un moment. Ouais. C'est plus que les chaînes d'info continues à certaines heures de la journée. Donc on est
et plus que le tirage de la majorité des journaux.
Des journaux, absolument. On a Donald Trump aux États-Unis qui, par ses tweets, dans lesquels à la fois il délégitime le New York Times, CNN, etc., mais il s'adresse directement à ses électeurs. Il a là aussi des chiffres absolus. Il a 30 millions, je crois, de followers sur Twitter. Et on voit bien que du côté de la présidence actuelle en France d'Emmanuel Macron, il y a une tentative de cantonner la presse à un rôle, je dirais presque marginal. Le président de la République communique beaucoup, énormément, et passe peu par les journalistes pour ça. Et je pense que c'est absolument une stratégie délibérée. Je ne sais pas si elle sera payante pour lui. Il faudra voir si la première alerte sur les sondages qu'il vient d'avoir lui fera revoir sa stratégie. Mais en tout cas, c'est clair que c'est ce qu'il essaye de faire.
Arnaud, merci. Ce que décrit Pierre Aski, on a en effet tous pu en faire le constat. Et ça rejoint aussi un petit peu ce que disait Alaa Konmani sur cette distinction entre information et communication à propos du président Erdogan. Il ne s'agirait évidemment pas de dire qu'on est ici dans la même situation qu'en Turquie, mais malgré tout, on voit un peu un schéma se dessiner de défiance vis-à-vis des journalistes. Est-ce qu'ils y sont pas aussi un petit peu pour quelque chose ?
Bah, je pense qu'effectivement, malheureusement, la profession, dans les conditions d'exercice de son métier, a conduit à un certain nombre de situations que pour ma part, j'appelle de mal-information, c'est-à-dire entre la vitesse, le manque de recul, l'excès d'intérêt pour des choses qui paraissent micro-collines et trop people ou autres. Enfin bref, il y a plein de façons, il y a plein de reproches qu'on peut faire. Je crois que c'est pas le but de l'émission ici, mais de les énumérer. Mais l'enjeu, du coup, c'est que à partir du moment où la presse, enfin les médias en général, ont pu se rendre coupables, et parfois, j'ajoute, les médias les plus visibles, qui sont aussi les baobabs, qui cachent une forêt de gens qui font honnêtement et bien leur boulot, malheureusement, mais en tout cas, comme c'est la partie la plus visible de l'iceberg, évidemment, les gens construisent leur représentation des médias sur cette base-là. Hein. Et quand on voit que dans le tempo de l'urgence, etc., même l'AFP, qui est censé être le temple du recoupement, annonce la mort d'un PDG, enfin vous voyez, c'est-à-dire que c'est même les icônes sont blessées, si je puis dire, et blessent la profession d'une certaine façon. Donc, à partir de ce constat, c'est vrai qu'il y a tout un tas d'hommes politiques qui trouvent utile de surfer là-dessus. Et en même temps, l'enjeu, c'est que ce n'est pas seulement parce que les médias, on a moins confiance dans les médias et que les hommes politiques se disent tiens, surfons là-dessus, mais ce qui est en train de changer, c'est ce que disait un petit peu Pierre Aski, c'est qu'il y a un nouvel écosystème de l'information qui s'est mis en place, que j'appelle un écosystème socio-numérique de l'information, dans lequel effectivement un certain nombre de gens considèrent qu'ils peuvent s'informer, mais autrement, avec les réseaux sociaux, en étant avec des pairs, de pair à pair, avec des blogs, etc., avec des sites qui ne sont pas estampillés médias au sens strict du terme, déontologie, journaliste, carte de presse, enfin tout ce qu'on veut, et qui pensent que ça leur suffit, au contraire, et c'est voir, c'est même mieux. Et puis après, ça peut être instrumentalisé, comme on le voit dans la fachosphère, l'extrême droite, etc., où ils ont carrément théorisé l'idée de la réinformation, c'est-à-dire à partir du moment où vous dites des choses que ne disent pas les médias, c'est que c'est de la vraie information, alors que souvent, justement, ce que c'est des rumeurs et autres.
À la Cohn-Mani, c'est vrai que là, on voit cette évolution par rapport au journalisme traditionnel occidental, de l'arrivée de ces médias sociaux. C'est aussi pour vous, par exemple, je pense à votre dernier livre, Seul dans Raqqa, la possibilité pour une journaliste comme vous qui n'a pas la possibilité de se rendre dans Raqqa en guerre, d'avoir accès à cette jeune femme, cette jeune professeure de philosophie qui vous informe et qui par Facebook informe la terre entière.
Absolument. C'était bon, mais là encore, dans le cas syrien où ces dernières années, même si moi j'ai essayé d'y aller tant que je pouvais sur le terrain syrien, maintenant ça devient une no-go zone pour les journalistes, c'est clair. Et c'est vrai que maintenant, tous ces militants ou ces témoins locaux qui postent des informations sur les réseaux sociaux sont des sources précieuses. Mais sources précieuses parce que ça donne l'ambiance, parce que ça donne le vécu, c'est un vrai témoignage. Mais brutes ne sont pas exploitables. C'est justement le rôle du journaliste. Ils sont une source d'information précieuse, mais ils ne peuvent pas être une source d'information exclusive. Et il faut les retravailler, il faut les vérifier, cette information. Parce que, bon, moi j'ai Nissan Ibrahim, ça me donne un témoignage extraordinaire de ce que vit une jeune femme dans Raqqa jusqu'au bout de l'aventure, si je peux dire. Mais je sais aussi qu'il y a d'autres qui vont me donner d'autres informations, et si je n'ai pas justement la formation journaliste pour retravailler tout ça, remouliner, revérifier, surtout si on me donne une information d'un côté et que je la retrouve pas de l'autre, enfin, faire un vrai travail de journaliste. Donc les réseaux sociaux, c'est un plus, mais ça peut pas remplacer.
Pierski.
Oui, je pense que la technologie est neutre. C'est-à-dire que la technologie ne garantit pas à elle seule ni la qualité de l'information, ni la détérioration de la qualité de l'information. Ce sont ce qu'en font à la fois les producteurs d'informations, qui sont aujourd'hui totalement indifférenciés, parce que autrefois c'était les journalistes qui avaient le monopole de la production d'informations. Aujourd'hui, tout le monde produit de l'information. Toute personne qui a entre ses mains un smartphone peut produire de l'information, même sans le savoir, par en alimentant les réseaux sociaux.
Nous sommes tous les Monsieur Jourdain de l'information.
Exactement. En revanche, ce qui reste problématique aujourd'hui, c'est la définition de l'information de qualité. Donc, comment et quels sont les critères de la définition de l'information de qualité ou de la fake news, pour employer une expression à la mode. Et là, on retrouve la polarisation de la société. Et l'exemple que donnait Arnaud tout à l'heure sur la réinformation que produit l'extrême droite est très préoccupant, parce qu'effectivement, il y a une partie de nos concitoyens qui considèrent que tout ce que produit l'univers médiatique professionnel est nécessairement du mensonge, et tout ce qui est produit par les autres, donc par l'antithèse,
complète,
voilà. Ouais. Et donc, à partir du moment où on n'a plus le même critère aujourd'hui pour définir un fait, et c'est là qu'on retrouve la question des faits alternatifs, de la post-vérité, etc. Enfin, des débats qui sont infinis et qu'on n'a pas encore tranché depuis l'élection américaine de l'an dernier. Il y a un moment, il va falloir qu'on retrouve la confiance sur quelques critères communs de définition d'une information vérifiée et de qualité. Elle n'est pas nécessairement liée à la détention de la carte de presse, ça j'en suis absolument convaincu. En revanche, il y a des faits et des critères objectifs qui doivent être trouvés et acceptés par l'ensemble de la société.
Bah oui, justement, Arnaud Mercier-Vous, avec The Conversation, il ne s'agit pas de faire appel qu'à des journalistes. Donc l'information vérifiée, ça n'est pas le monopole des journalistes.
Non, dans le cas spécifique de The Conversation, effectivement, il y a l'idée, mais ce n'est pas un modèle transposable à tous les autres médias. Hein. Nous, on a une logique qui consiste à dire faisons appel à des experts, et pas seulement aux experts les plus connus, ceux auxquels on fait appel tout le temps, mais vraiment l'expert sur le sujet, le vrai expert, si je puis dire, et non pas l'expert généraliste, si tant est qu'on accepte justement ça. Mais on voit bien que sur certaines chaînes d'information continue, c'est ça que c'est devenu. Hein. On est spécialiste de tout, on est expert généraliste. Bon. Donc des vrais experts, si je peux me permettre, y compris sur un mode participatif, au sens où c'est eux qui nous proposent des sujets, et les journalistes sont là pour mettre en forme les choses, mettre des liens hypertextes, la photo, l'illustration, la titraille, et les aider à rédiger pour être plus clair, plus pédagogique, parce qu'il y a une démarche vis-à-vis d'un certain nombre d'académiques qui est difficile, il y a un pas qui est difficile à faire, si vous voulez, parce que ils n'ont pas l'habitude forcément de s'adresser à un plus grand public, et donc il y a une conversation permanente à travers le back office du site, puisque c'est un document partagé, dans lequel il y a une co-écriture après, à la fin. Hein. Bon. Mais là, effectivement, nous, on a cette niche-là, on n'a que 7 ou 8 sujets, pas forcément d'actu hyper chaude, mais je pense que ça ne résout en rien la question de savoir comment on fait l'information au quotidien. Je voulais juste ajouter un point par rapport à ce qu'a dit Pierre Aski. Par exemple, ce qui est très important, quand il dit faut trouver maintenant les critères, faut revenir à des choses. Ce qui est très important, c'est la pression conjuguée qu'ont fait les États, l'Union européenne et d'autres sur Facebook, par exemple, en prenant cet exemple, parce que Facebook est très responsable d'une partie de ce qui se passe dans ce brouillage complet des cadres de l'information. Et Facebook s'est dédouané pendant très longtemps en disant « Mais nous ne sommes pas un média, nous nous contentons d'être une plateforme qui permet aux gens de... » Sauf que les gens... C'est ce que disent là aussi bien si. Ça dépend comment les gens se l'approprient. Les gens se sont appropriés notamment Facebook pour en faire un outil d'information, pour faire circuler, partager des liens, etc. Donc ils se fabriquent leur information, ils font des revues de presse, des revues de liens, etc. Bon. Et il y a des gens qui cliquent sur des choses par sérendipité, c'est parce qu'il y a un ami qui a recommandé, tiens, bah oui, ça a l'air bien, puis la photo. Et du coup, Facebook a encouragé beaucoup à faire circuler des tas de choses, à faire une sorte de blanchiment de l'information sale, si je puis dire, c'est-à-dire faire remonter des rumeurs et autres. Et maintenant, il y a pression pour que Facebook fasse du, comme on dit en bon français, du fact-checking, c'est-à-dire que soit obligé d'inventer, avec des journalistes ou pas, enfin bref, là, il y a tout un débat, comment on filtre cette information.
Il y a un risque à ce que ça soit Facebook qui fasse le contrôle, parce que Facebook, non seulement n'est pas un média, mais Facebook est issu d'une culture. On voit bien, par exemple, les dégâts que fait Facebook dans sa chasse aux nus.
Oui, aux nus,
par exemple.
Oui, qui est ridicule.
Appliquer ça à la politique.
Bah, c'est un algorithme qui fait la chasse, donc c'est
oui,
vrai
mais
que.
Mais en même temps,
ça rend les choses un peu compliquées.
Il propose aux journalistes et aux médias.
Est rédigé par des êtres humains.
C'est ça, mais il propose à des journalistes et à des médias de faire ça, sauf qu'il ils veulent pas les payer, donc ils veulent le beurre et l'argent
oui,
du beurre.
Oui, c'est sûr que ça rend les choses compliquées. On n'a pas eu le temps justement de parler de modèles économiques de la presse, ce qui aurait permis d'éclairer cette conversation, mais c'est pas grave, on vous réinvitera les uns et les autres pour le faire. Merci Pierre Aski, Alain Cohn-Magny et Arnaud Mercier d'avoir participé à cette émission. Toutes les références vous concernant seront sur notre page du Grain à Moudre d'été sur franceculture.fr, une page renseignée chaque jour par l'équipe de Du Grain à Moudre, Pierre Testard, Daphné Abgral, Camille Ferré, Cédric Don Fuentes et Juliette Monti. À la réalisation ce soir, c'était Anne Despelchin et à la prise de son, Jacques Hubert.